je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu.
Vous arrivez à destination.
Version perverse, monstrueuse du discours géographique.
Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan.
L'esprit géographique, Arthur Guérin-Turc.
L'argot des pays oubliés. Il est des lieux qui résonnent comme de vieux prénoms. Georges, Lucienne, Églantine, Edmond. Tous ces prénoms, très à la mode au siècle dernier, ont presque disparu, purement et simplement. Pour les lieux, c'est la même chose. À côté de Tours, dans la région de la Touraine, qui se souvient encore du Tello et du Véron ? Pas grand monde, à part peut-être les gens qui s'appellent Isidore et Morissette. Si vous ouvrez un dictionnaire de noms propres, genre l'encyclopédie poussiéreuse qui traîne dans le grenier, vous découvrirez d'étranges prénoms tombés dans les oubliettes de notre mémoire. Moi, j'ai fait la même chose, mais avec des livres de géographie de l'entre-deux-guerres. J'y ai exhumé des micro-régions dont le nom est aujourd'hui tombé en désuétude, comme le Quéran dans le Lot-et-Garonne. Mais je vous rassure, chers auditeurs, vous n'êtes pas obligés de creuser dans les archives familiales pour les trouver. Des traces de ces toponymes subsistent parfois comme suffixes accolés au nom sur le panneau indicateur des petites villes que nous traversons, comme Porte en Valden dans la Drôme provençale. Aujourd'hui, on observe un recyclage de noms de régions qui semblaient promis à un oubli définitif. Ainsi en est-il du Saunois, autour de Mamers, dans la Sarthe, qui cherche à se démarquer de la région toute voisine d'Alençon. Cela a permis de relancer la race bovine du Saunois, qui allait bientôt s'éteindre. Pour faire terroir, certaines communautés de communes réutilisent les noms de régions tombées en désuétude, comme Nébouzan-Rivière-Verdun en Haute-Garonne. Quelle reconnaissance pour le Nébouzan, arraché des griffes de l'histoire par quelques administrateurs territoriaux. Certaines régions ont même récemment pu acquérir une véritable notoriété. L'Armagnac, étudié par les ethnologues et agronomes, est désormais bien connu et activement promu. Julien Gracq écrivait à propos de l'Armagnac:
l'image que fait lever son nom n'est pas une image géographique et historique unifiée, dense et puissante, comme celle qui lève des noms de Flandre, de Bretagne ou d'Alsace, mais seulement distillée aux confins de la gastronomie et d'un chef-d'œuvre de la littérature populaire, les Trois Mousquetaires. Un parfum, un bouquet, plutôt qu'une essence fondamentale.
L'Armagnac résonne maintenant pour la plupart d'entre nous comme d'autres hauts lieux plus anciennement reconnus. Le Luberon, le Pays Basque, la baie de Somme. Cette notoriété récemment acquise renvoie à des constructions sociales spécifiques, mais souvent le fruit d'heureuses conjonctions entre un produit local, un type de paysage et une histoire prestigieuse. Couteau, fromage, eau de vie, eau plateau volcanique ou calcaire, lutte sociale. Et dans le même temps, un processus de néologie prend aujourd'hui une ampleur sans précédent, avec la généralisation d'une nouvelle politique dite de pays, impulsée par la DATAR, l'organisme d'aménagement du territoire français. Mais tout se complique avec la création antérieure des parcs naturels régionaux, aux objectifs voisins, dont les noms ornent fièrement l'entrée des communes qui y sont incluses.
Eh bien, au-delà des parcs nationaux déjà anciens et qui sont des sanctuaires de la nature, les parcs naturels régionaux ont été implantés en liaison avec les grandes métropoles régionales, qui apportent donc une clientèle citadine. Donc le premier but de ces parcs naturels est avant tout d'assurer des espaces de détente pour une population citadine. Et le deuxième but, non moins important, est de chercher des formules de réanimation des secteurs ruraux qui finalement sont en perte de vitesse.
Et pour étourdir encore un peu plus le passant, certaines communautés de communes se dotent elles aussi d'un nom souvent bricolé à partir de celui d'une ville, d'une ancienne appellation régionale ou simplement d'un néologisme. les habitants d'aires géographiques soumises à plusieurs baptêmes sont les premiers à le déplorer. Quel habitant de la région de Pithiviers, par exemple, pourra se reconnaître dans le pays de Bosse Gâtinais en Pithiveray ? Je vous le concède, ça ne fait pas rêver. De ce fait, l'espace rural est en train de devenir un véritable palimpseste, ces kyrielles de noms propres formant comme un argot territorial où touristes, voyageurs avertis et même chercheurs ont beaucoup de mal à se repérer. Alors, pour sortir du lot, il faut jouer sur la communication.
La Thiérache est une terre rude qu'il faut savoir mériter. Pour ceux qui l'aiment, Bocage et Vallon deviennent une mer couleur émeraude. Une immensité silencieuse au charme méconnu que nous allons découvrir.
Depuis que je suis petit, je dois vous l'avouer, il m'a été donné de tomber dans une fascination assez étrange que j'ai longtemps crue toute personnelle pour les noms des plus petites régions que je découvrais dans les guides touristiques du grenier ou dans un vieux manuel de géographie régionale dispensé par d'obscurs micro-géographes. Adolescent, déjà, la lecture des cartes IGN me captivait. Je peux d'ailleurs toujours consacrer de longs moments à repérer et épeler mentalement le nom des moindres lieux-dits des finages communaux d'une France qu'on ne traverse même plus. Plus l'espace était petit, plus ignoré et déroutant sa domination, plus je jubilais, pris par le vertige de ces litanies d'entités micro-régionales qui me semblaient quasi inépuisables. Un peu à la manière des nomenclatures botaniques, des microclimats ou encore des nuanciers de couleurs. Ces gars-là, déclinés au pluriel, en quercinois, rouerga, albigeois, sidobre et espinouse, trièves, chansor et matésine, vosges, mais saunoises, châtaigneraies, mais cantaliennes. Via d'Anexintry, le guide des pays de France en indique un nombre impressionnant. Le Quin dans la Drôme, le Kercorbe dans le Gers, ont versé dans la catégorie des noms des terres oubliées. Je ne peux m'empêcher de consigner mes nouvelles découvertes scrupuleusement dans mon cahier de lieux que je tiens rigoureusement depuis ma classe verte de CE2. Comme si je l'habitais déjà, chacun de ces noms propres me laissait et me laisse toujours à deviner de ces contrées la couleur spécifique du ciel, le grain de leur terroir, leur chemin, leurs maisons et hameaux, à les toucher presque à la manière de prénoms ou plutôt de surnoms, mieux de petits noms, d'individualités territoriales, insécables, des condensés élémentaires de l'espace rural. À une autre échelle, nombre d'auteurs témoignent d'une fascination du même ordre. Julien Gracq, à partir des noms de rues de Nantes, qui, après en avoir listé près d'une vingtaine, poursuit.
C'est la toponymie, ordonnée comme une litanie. Ce sont les enchaînements sonores auxquels procède à partir d'elle la mémoire, qui dessinent sans doute le plus expressivement sur notre écran intérieur l'idée que nous nous faisons loin d'elle, une ville.
Marcel Proust écrit.
Ces noms de villes, Balbec, Coutances, Lamballe, Pont-Aven, combien ils prirent quelque chose de plus individuel encore d'être désignés par des noms qui n'étaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes.
La seule évocation du toponyme de ces villes réelles était une jouissance pour Marcel Proust, ville où pourtant il ne s'était jamais rendu.
Je trouve enfin un petit peu de temps pour t'écrire, car il est doux ici de le garder pour soi, de le garder pour se laisser gagner par l'étonnement et l'admiration que suscite la contemplation du pays berrichon.
Désirant être reconnu comme pays, les collectivités locales ont
un capital d'image à exploiter leur nom,
selon le géographe Falco. Dans cette optique, comme on vient de le voir, il y a ces régions porteuses de pays, histoire, dont l'écho qu'elles provoquent en nous se situe du côté de l'héritage, de la filiation, mais parallèlement, beaucoup de nouveaux noms de territoires font plus volontiers appel à d'autres registres de nos représentations. Nombre d'associations et offices du tourisme utilisent les qualificatifs mélioratifs, superlatifs, cédant à la tentation de procéder à ce qu'on peut appeler un marketing territorial. Cela se traduit par une inflation des oronymes, c'est-à-dire des toponymes désignant une hauteur, un sommet. Comment ne pas penser tout de suite à la création de la région les Hauts-de-France, qui regroupe les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, qui résonnent toujours dans l'opinion publique comme les lieux de misère sociale et économique et où le ciel bas ne laisse passer que quelques rayons de soleil par an.
S'émerveiller,
contempler
et voir plus loin,
vibrer,
partager,
célébrer,
s'élever,
être heureux.
Vous aimez votre région?
Vous aimez votre région?
Dites-le haut et fort.
Vous aimez les Hauts-de-France? Dites-le haut et fort.
Mais à qui sont destinées ces nominations touristiques? Quel public visent-elles? À travers le point de vue des responsables associatifs de la région de Montpellier, nous est proposée une réponse qui semble pouvoir être généralisée.
L'appartenance à une image, à un pays, doit être l'ambition d'un territoire. Quelle image veut-on en donner? Se vendre à l'extérieur renforce notre propre sentiment d'appartenance à l'intérieur. Une image forte doit connaître un minimum d'appropriation à l'intérieur du territoire. Mais sa finalité première est quand même pour l'extérieur.
L'assaut de slogans et de logos que font les départements ne nous dit pas autre chose.
Lozère, terre d'exception.
L'Ardèche, terre d'endurance.
L'Indre, l'harmonie de la pensée.
Tous ces slogans sont véridiques, vous pourrez aller vérifier. Nommer un territoire, c'est se considérer et chercher à se rendre différent, se distinguer du voisin, s'en démarquer par une autodésignation. C'est là un acte qui concerne autant l'identité de l'autre que celle de celui qui se nomme. Les petites régions contiguës à celles qui parviennent à acquérir une notoriété s'en trouvent dévalorisées, comme vassalisées dans une lutte de classement, pour reprendre l'expression de Bourdieu. Si chaque territoire prétend se poser en haut lieu, ceux qui, objectivement, présentent moins de qualité ne peuvent qu'en pâtir.
La Thiérache se range à part dans le cortège des paysages du nord de la France. Elle est un pays d'herbes, de terres humides et de rivières tranquilles. Longtemps isolée et marquée par un fort passé industriel, elle est en train de réussir une belle synthèse. Devenir moderne en renouant avec son passé. En Thiérache, on est à nouveau fiers d'être paysan. Il était une fois une région nature, à piétiner et consommer sans modération.
À une époque où les différences en termes de mode de vie s'estompent et se réduisent de plus en plus entre les territoires, chacun revendique des spécificités d'un autre ordre, culturel, historique ou paysagère. Celles-ci sont parfois très ténues, voire discutables. De ce processus de distinction et de démarcation peuvent découler les dérives que l'on sait vers l'exclusion ou vers des revendications autonomistes. Terreau et levier d'un nouvel esprit de clocher, l'attachement excessif, la crispation des régions sur leur nom risquent d'alimenter l'idéologie du local, un poujadisme territorial que l'on se doit de débusquer, dénoncer et combattre selon le géographe bordelais Guy Dimeo. Et dans le futur, qu'adviendra-t-il de ce nouveau patrimoine onomastique? Ces nominations donneront-elles durablement un sens nouveau à l'appartenance territoriale? S'agit-il d'une exception française? L'espace a toujours été et demeurera toujours problématique. De même que la patrimonialisation, cette quête d'ancrage spatial que révèle cette soif de toponyme, ne constitue pas seulement une réaction à la mondialisation. Le retour au local est certes lié à la phase actuelle du devenir de l'espace rural, mais il s'avère universel, anthropologique, comme l'écrit Georges Perec.
J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'il n'existe pas que l'espace devient question. Cesse d'être une évidence, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.